Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la Startup Nation est-elle soluble dans la République ? Bonjour Denis Lacorne.
Bonjour.
Vous êtes politiste, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis, directeur de recherche aux séries Sciences Po. Vous venez de publier chez Fayard, Tous milliardaires, le rêve français de la Silicon Valley. Alors le quinquennat est au milieu du guet. Emmanuel Macron vient d'accomplir la moitié de son mandat. On a presque fini par oublier le caractère improbable de son élection. Dans la vie politique française, on ne part pas à la conquête du pouvoir sans parti derrière soi. Emmanuel Macron, en lançant sa candidature, était dans la disruption. Un pari risqué, mais un pari payant, la culture start-up appliquée à l'élection présidentielle. Cette façon d'aborder la politique est aussi devenue un des axes du projet économique de la majorité, car la France ambitionne de devenir une start-up nation à l'aide de son bras armé, la French Tech. À vrai dire, cette ambition n'a pas attendu le macronisme pour s'exprimer. Le quinquennat de François Hollande en fit un de ses projets prioritaires. Et on apprend dans votre livre, Denis Lacorne, que déjà le général de Gaulle lorgnait avec envie du côté de la Silicon Valley. Mais l'écosystème californien qui a vu se développer les Google et autres Facebook est-il adapté à notre culture politique et économique, encore très marquée par son passé colbertiste et son idéal égalitaire ? La Startup Nation est-elle soluble dans la République ? C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Denis Lacorne. Et je vous propose pour commencer cette discussion peut-être de faire un petit effort de définition. Brièvement, malgré tout, qu'est-ce qu'on entend par Startup Nation ?
Alors, Startup Nation, c'est la modernité telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire oublier la vieille économie, les 440, et mettre le paquet sur les plus jeunes, ceux qui travaillent dans les start-up et dont l'ambition ultime est de créer des licornes. Une licorne, c'est quoi ? C'est une start-up qui est valorisée à $1 milliard avant d'entrer en bourse. Il y en a très peu. Il y en a 5 en France, il y en a un peu plus en Angleterre et en Allemagne, il y en a près de 200 aux États-Unis. Donc, il y a un effort à faire. Et l'ambition d'Emmanuel Macron, il l'a dit très récemment, en septembre, je crois, cette année, c'est qu'en 2025, il nous faut 25 licornes. Tout est fondé sur, dans le fond, une déclaration qu'il avait faite aux Échos, je crois, en 2014, qui était assez amusante, mais mal comprise. Emmanuel Macron avait dit, il faut que les jeunes deviennent milliardaires. On avait dit, oula, c'est le président des riches, c'est mal parti. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Il voulait dire, il faut créer des licornes. Mais peu de gens savent que la licorne, c'est une entreprise qui est valorisée, ça veut pas dire c'est sa vraie valeur, elle est valorisée à 1 milliard d'euros avant de faire sa sortie d'entrée en bourse.
Alors c'est une fascination française qui est assez ancienne pour cet écosystème de la Silicon Valley, même si à l'époque on ne parlait pas de start-up ni de licorne, mais on peut remonter, hein, c'est ce que vous faites dans votre livre, donc au général de Gaulle, 1960, il se rend en Californie.
C'est dans un nuage de confettis et de serpentins que le président de la République a fait son entrée triomphale dans la capitale de l'Ouest américain. Cette ville, aux 14 collines, le président a pu en contempler les aspects en faisant le tour de la baie célèbre à bord d'un garde-côte, avant de s'envoler pour la Nouvelle-Orléans, où devait s'achever son périple nord-américain.
Voilà, le général de Gaulle en 1960, donc en Californie, San Francisco, il va également faire un tour à Palo Alto.
Et à Stanford.
Il n'y a pas Microsoft, il n'y a pas Facebook à l'époque. Qu'est-ce qu'il va y faire, Denis Lacorne ?
Il va voir l'hôpital de Stanford où il a correspondu très longtemps avec un jeune qui lui a écrit, qui était un jeune admiratif de Gaulle.
Stanford, il faut rappeler, grande université.
Oui, c'est ça. C'est une petite ville maintenant. Autrefois, ça faisait partie de Palo Alto. Aujourd'hui, c'est séparé. Et il va d'abord être acclamé par de jeunes lycéens de Palo Alto sur son trajet vers Stanford. Et à Stanford, il va aller au parc industriel et il sert la main, il y a une photo que j'ai trouvée dans les archives de Stanford, il serre la main de M. Hewlett, le fondateur de Hewlett-Packard, et on le voit qu'il touche des petits objets, il fait très beau, c'est dehors, qui sont des éléments d'ordinateur de Hewlett-Packard. Donc il y a déjà un intérêt pour ce qu'on n'appelle pas encore la Silicon Valley. Le nom viendra un peu plus tard.
Il en ramène quoi de ce voyage en Californie, le général de Gaulle ? Il y a le plan calcul qui va arriver quelques années après. Est-ce que c'est directement inspiré de ce qu'il a vu ?
Oui, c'est-à-dire pour lui, ce qui le marque, c'est que son frère était à l'exposition universelle de Bruxelles. Et à cette exposition de Bruxelles, il y avait un petit stand sur la relation ou la symbiose université-industrie. Et l'exemple donné était Stanford. Donc ça avait beaucoup frappé De Gaulle. Il n'était pas allé à Bruxelles, mais son frère était à Bruxelles. Et donc il a voulu voir ce que ça voulait dire, la relation université-industrie.
Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas à l'époque en France ?
Si, il y a toujours eu des facultés scientifiques, il y a toujours eu Orsay, mais il n'y a pas des entrepreneurs qui terminent leurs études, empruntent de l'argent et lancent une start-up sur le campus même. Donc c'est propre au campus américain et propre à Stanford, qui a ce qu'on appelait, entre guillemets, la ferme, qui est un très grand terrain, qui est devenu un parc industriel. Et il découvre Hewlett-Packard dans le parc industriel de Stanford, et pour lui, c'est un peu un modèle. Mais c'est vrai qu'il pense aux champions nationaux, et le plan calcul, le Concorde, donc il a ça derrière la tête. Il y a aussi le nucléaire, qui est aussi très important. Mais il faut bien comprendre la différence entre les champions nationaux à l'époque de De Gaulle et aujourd'hui. C'est qu'à l'époque de De Gaulle, c'est top-down, c'est une logique verticale descendante, c'est l'État qui met le paquet sur des grandes inventions technologiques qui vont réussir ou non. Le Concorde est un exemple à la fois de succès et d'échec. Et puis, les start-up, c'est autre chose. C'est l'initiative purement privée, c'est pas l'État qui crée ses champions nationaux. Et d'où la difficulté du monde des start-up aujourd'hui. La start-up, ça commence dans le privé. C'est la logique du privé et du profit privé. Et là, l'État peut être incitateur. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'État qui veut pousser, promouvoir, aider les start-up.
Alors on verra justement dans un instant, Denis Lacorne, si cette logique-là, elle est facile à adapter à la façon dont on voit la politique économique et industrielle en France. Mais continuons un petit peu à remonter dans le passé. Cet écosystème que vous décrivez français, est-ce qu'il est si différent que cela une dizaine d'années plus tard, lorsque le successeur du général de Gaulle, Georges Pompidou, fait lui aussi le voyage jusqu'à Stanford ?
Oui, alors lui aussi est marqué par ce lien université-industrie, donc pour lui c'est cette symbiose. Mitterrand aussi aura la même découverte.
Mais alors Mitterrand Pompidou, qui ira aussi à Stanford,
qui ira aussi à Stanford et à Berkeley, entre parenthèses. Mais Pompidou en même temps est très préoccupé par la crise étudiante, par ce qui s'est passé en France, par mai 68. Donc il passe au lieu d'investir beaucoup de temps dans l'observation de ce qui se passe dans Silicon Valley, il est troublé lui par la révolte des étudiants à Berkeley et en France. Donc il est un peu détourné du sujet des start-up. Même si les start-up, dans la culture des start-up, il y a un aspect de rébellion qui peut rappeler à certains égards mai 68.
Vous racontez d'ailleurs que François Mitterrand participe à un teach-in, une sorte de débat, et que dans le public, il y a un certain Steve Jobs, voilà, un des co-créateurs d'Apple, qui est très critique par rapport au modèle français.
Oui, et qui fait une critique en règle du modèle éducatif français, qui dit en France, vos étudiants ne créent pas d'entreprise, il n'y a pas d'argent pour ça, ils sont trop dispersés. Donc c'est une critique en règle du système éducatif français, c'est assez étonnant. En même temps, Steve Jobs était bien informé sur les problèmes de notre système éducatif. Et en même temps, c'est un système éducatif qui fonctionne bien, c'est-à-dire que le génie de la France, c'est de créer de très bons ingénieurs. Et beaucoup d'ingénieurs des très grandes écoles françaises vont travailler, vont faire carrière dans la Silicon Valley. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas seulement des ingénieurs, il faut aussi des gens qui sont capables de vendre les objets créés dans la Silicon Valley. Il faut une très très bonne compétence en marketing, en vente. Là, on a toujours été un peu faible. Et puis aussi, il faut des financements fabuleux pour lancer une grande start-up qui deviendra une licorne. Et là, on en discutera, il y a des difficultés propres à la France.
On a même presque un peu l'impression que c'est autant la façon de vendre le projet que le projet lui-même qui compte. On ne va pas passer au crible tous les présidents. Est-ce qu'on peut dire, Denis Lacorne, que c'est sous le quinquennat de François Hollande que là, il y a un vrai coup d'accélérateur qui est fait avec notamment la création de cette fameuse French Tech?
Oui, tout à fait. Alors, deux choses. François Hollande, c'est un tournant dans le quinquennat de François Hollande. C'est le tournant libéral où il découvre...
Comme en 84 avec Mitterrand.
Oui, c'est un vrai tournant. Il découvre que les start-up, c'est important. C'est peut-être une façon de mobiliser les jeunes et de les inciter à produire à la fois des entreprises et des emplois. Il a face à lui un mouvement très critique, le mouvement dit des pigeons, qui sont des entrepreneurs à la fois en France, Jean Bordon, mais aussi dans la Silicon Valley, Carlos Diaz, qui estime que on a trop pressé le citron, qu'il y a trop d'impôts, que c'est inacceptable, et c'est là que...
Voilà, parce qu'il y a des règles de cession d'entreprises qui ont été durcies fiscalement.
D'impôts sur le revenu, voilà. 75%, et tout ça va changer.
Ils contestent ces règles-là, voilà. Avec ce mouvement des pigeons.
Donc, le mouvement des pigeons, qui est un lobby, dans le fond, va convaincre Hollande de changer un peu les choses, et François Hollande va se rendre dans la Silicon Valley va prendre des mesures modeste, mais quand même favorable aux start-up. Et surtout, il va créer, alors on a appelé ça l'initiative French Tech, c'est devenu la mission French Tech, ou la French Tech tout court, avec son logo qui est très patriotique, c'est un petit coq en origami rose, mais qui n'est pas un coq de guerre, c'est un gallinacé très, très pacifique, presque enfantin. C'est le symbole qui a été choisi. D'ailleurs, il y a eu tout un débat. Est-ce que ça devait être un losange ou un coq? Bref, on a dit un coq rouge pour promouvoir la technologie française, qui est un peu paradoxal, puisque le propre de la culture start-up, c'est d'être mondialisé. C'est de vendre partout dans le monde, pas seulement en France. D'où les ambiguïtés du concept même de start-up nation. C'est-à-dire qu'une nation qui veut surtout vendre à l'étranger n'est pas vraiment une nation. Il n'y a pas de frontière dans la start-up nation. C'est un mot un peu confus, mais qui trouve son origine en Israël. C'est Israël qui a créé le mot. Ce sont des journalistes israéliens qui ont dit Israël, c'est une start-up nation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup créé de start-up en Israël dans les années 60. Et donc, c'est un peu un modèle, de même qu'il y avait Londres qui était une tech city. Donc, ça a été des modèles qui ont influencé Fleur Pellerin, ministre déléguée au PME, au numérique, et aux startups qui a lancé la chose avec une petite équipe, mais ça a été assez intéressant parce que le rôle de la French Tech, de la mission French Tech, c'était de mettre en avant, de rehausser dans le fond l'image de l'économie française qui était un peu rétrograde pour montrer qu'on est très moderne aussi, donc on revient dans la modernité, une nouvelle modernité qui est celle des startups, et elle a développé toute une série d'instruments pour mettre en avant cette industrie. Mais là, on est dans l'incitatif, c'est pas l'État qui, au sommet, avec le président, crée des géants, des champions nationaux, c'est on aide des start-up qui essayent, des jeunes pousses qu'il faut développer.
Vous avez parlé d'un tournant s'agissant du quinquennat de François Hollande. On ne peut pas parler de tournant pour Emmanuel Macron parce que c'est au cœur de son projet politique, justement, cette idée de créer une start-up nation, une French Tech nation. Et il le formalise même, d'ailleurs, dans certains de ses discours, comme en juin 2017. Il vient d'être élu et il inaugure Station F, qui est l'incubateur de start-up de Xavier Niel.
Alors, je dois vous faire une confidence. Il y a 3 ans, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise. Simplement, à l'époque, Station F n'existait pas. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé, et puis progressivement, j'ai pivoté le business model. D'abord, beaucoup de gens m'ont dit « ça marchera jamais ». Ensuite, d'autres m'ont dit « le type est tout seul ». Ensuite, on nous a dit « ok, peut-être, mais il n'y a pas d'investisseur ». Et à la fin, on l'a fait. Je ne suis pas en train de résumer la vie de la République, la politique française et ce qu'est une élection présidentielle à la vie d'une entreprise. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui vous rassemble, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial.
Bon, Denis Lacorne, je rappelle, vous publiez « Tous milliardaires, le rêve français de la Silicon Valley » chez Fayard. Vous êtes politiste, c'est intéressant ce que dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire il prend le pouvoir en mode start-up. C'est-à-dire, c'est pas juste anecdotique, hein, cette façon d'expliquer comment il a réussi à conquérir l'Élysée.
On a même parlé à certains moments dans la presse de la start-up Macron, ou macronienne. C'est-à-dire que c'est vrai que créer une start-up, c'est créer une espèce de, on dit en anglais, disruption. C'est-à-dire c'est un effet un peu de rébellion. Sortir des chemins battus, dans le fond, prendre des risques, au risque de perdre. Et c'est vrai que Macron a pris ses risques en essayant d'apparaître et en réussissant à apparaître encore plus moderne que Hollande. C'est-à-dire Hollande avait créé l'initiative French Tech, mais lui va la transformer en quelque chose de plus plus. Et de façon très habile, il va se présenter comme le plus grand des modernisateurs en France à l'époque.
Est-ce que ça fait aujourd'hui, alors on est donc à mi-chemin du quinquennat.
Il y a son voyage aussi à Las Vegas, qui est important. Enfin,
oui, alors voilà, Las Vegas. Alors là, il est encore ministre de l'économie.
De l'économie, hein, oui. Voilà. Un an avant son élection, avant son entrée dans la campagne présidentielle, mais c'est clair qu'il l'avait en tête, et pour montrer qu'il était ultra-moderne dans son approche de l'économie, c'était fort symbolique et fort important qu'il apparaisse à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, donc cette espèce de salon d'exposition de l'électronique de Las Vegas, dont on a d'ailleurs exagéré l'importance en France.
Mais oui, parce que alors justement, à ce sujet, ouais. sur Las Vegas, vous écrivez « Pour les politiques qui participaient aux agapes de Las Vegas, le CES, donc le Computer Electronic Show, créer la douce illusion de la suprématie du savoir-faire français. Et vous citez même alors un banquier français de la Silicon Valley qui dit le côté French Tech du CES est grotesque, c'est devenu pour la tech l'équivalent du salon de l'agriculture.
Oui, le salon de l'agriculture, c'est impératif pour un politique d'y passer plusieurs heures et de tâter le cul des vaches. Chirac était très bon à cela. Et aujourd'hui, on va à Las Vegas et on serre la main d'un robot pour paraître moderne. Je suis pas sûr que ça donne autant de voix que d'apparaître au salon de l'agriculture, mais ce sont des façons modernes, effectivement, de faire la politique. Et c'est un peu ridicule parce qu'on y montre des entreprises françaises, 200, 300, de plus en plus, mais c'est rarement décisif. Et les grandes start-up que nous allons créer ou qui se créent en France, en général, sont rarement présentes à Las Vegas.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France a réussi son pari de devenir une start-up nation, Denis Lacorne ?
Oui, si on prend le nombre de start-up qui existent, c'est de plus en plus grand chaque année. Oui, si on s'intéresse aux levées de fonds pour créer des start-up qui vont grossir, mais... on n'est pas les premiers de cordée, qui était un peu le schéma envisagé par Emmanuel Macron. On reste toujours dépassé par, alors bien sûr par les États-Unis, mais par l'Angleterre, par l'Allemagne. Et il y a des tas de mesures, des tas d'indices qui permettent de le montrer. Donc on n'est pas les premiers. Et en même temps, on se rend peut-être pas suffisamment compte que les start-up, c'est très bien, c'est très dynamique, mais ça crée relativement peu d'emplois, beaucoup moins que les PME. Les PME sont bien plus nombreuses que les start-up et elles sont un peu les oubliées de l'histoire. Donc il faut bien comprendre que tout ne se réduit pas aux start-up et qu'il ne faut pas confondre, comme le dit l'un de mes interlocuteurs, entrepreneuriat et start-up. On peut très bien créer une petite entreprise qui va réussir sans que ça soit une future licorne ou sans qu'on soit obligé de passer à Silicon Valley. Mais il vaut mieux à un certain moment, si on veut réussir sa start-up, il vaut mieux s'installer dans la Silicon Valley pour des raisons que je pourrais expliquer.
J'évoquais en tout début d'émission, Denis Lacorne, la tradition colbertiste française qui consiste à voir l'État pas être d'ailleurs uniquement stratège, mais aussi à la manœuvre pour mener une politique industrielle. Est-ce que ça crée peut-être des frictions? Est-ce que ça peut ralentir, par exemple, le développement de cet écosystème qui pourrait faire ressembler la France à la Silicon Valley, même si on est sur, évidemment, des ordres de grandeur qui sont bien différents?
Oui, parce que l'écosystème, c'est pas la tradition colbertiste, c'est l'initiative privée. Je crée avec mes amis, des collaborateurs, une start-up. Et puis, on espère que ça marche et on va lever des fonds privés. C'est une logique du profit. C'est aussi une logique de risque parce que les profits sont tardifs dans les start-up. Les start-up qui entrent en bourse, souvent, comme Uber aujourd'hui, marchent à perte. 4 milliards de pertes par an chez Uber, mais ils vont quand même en bourse parce que il y a l'objectif à long terme, de devenir profitable après avoir établi une sorte de monopole ou de quasi-monopole. Donc c'est une logique qui est curieuse. On cherche de l'argent, mais pas tout de suite.
Donc il faut des investisseurs qui acceptent de perdre d'abord de l'argent.
Voilà, et de perdre gros, ça fait partie du risque.
Et ça n'existe pas en France ?
Si, alors en France, la difficulté, c'est qu'on trouve pas mal d'argent avec la BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est très bon pour les amorçages, pour le lancement de petites start-up. Mais dès qu'on veut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire investir dans une start-up 50 millions ou 100 millions d'euros, disons, là, il n'y a plus personne. Là, ça devient très, très difficile. En même temps, la logique des start-up ou la logique du gouvernement, c'est une logique incitative. La French Tech, elle a peu d'argent. Elle marche parce qu'il y a... je dirais que derrière la main visible du marché dont parle Adam Smith, il y a la main financière de l'État français. Et la main financière de l'État français, c'est Il y a bien sûr des venture capitalistes en France, des capitaux risqueurs, mais ils sont pas très nombreux, et il y a l'État. Et la BPI France, la Banque publique d'investissement France, est un des acteurs clés, étatiques, c'est de l'argent de l'État, pour aider, propulser les start-up, mais c'est jamais complètement suffisant.
Il y a peut-être aussi un autre élément qui peut freiner, mais d'ailleurs faut-il toujours chercher à vouloir importer exactement ce qui existe ailleurs, mais qui peut freiner le développement d'un écosystème start-up, Denis Lacorne, c'est la politique d'aménagement du territoire. Vous racontez que la French Tech ne s'est pas concentrée sur un seul territoire en France. Il y a eu l'idée aussi de servir un petit peu tout le monde. Vous parlez d'un foisonnement de métropoles French Tech.
C'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire qu'on a... Alors, la logique de la French Tech, c'est une logique de... C'est de pouvoir par les labels, par les labellisations. On va donner le label French Tech, qui est le petit coq, le petit origami rose, à des villes méritantes. Et alors, la French Tech, au début, on va faire concourir les villes pour avoir le label French Tech et quelques aides économiques derrière, mais très faible, c'est simplement de donner une bonne image, une bonne marque à telle et telle ville. Il y aura d'abord une quinzaine de candidats, 9 élus, et puis catastrophe, Nice, Sofia, Antipolis, qui pourrait espérer obtenir le label French Tech, ne l'obtient pas. On remet la chose, il y a une sorte d'examen de rattrapage, 5 autres villes vont l'obtenir, ensuite il y a les thématiques simples. Mais le problème de l'aménagement du territoire à la française, c'est disséminer, saupoudrer dans le fond l'argent dans toute la France, que tout le monde ait sa part de gâteau. Ce qui est très bien, mais qui est contraire à la logique de high-tech, la logique de Silicon Valley. Silicon Valley, c'est une toute petite région de la Californie où sont concentrées des sommes incroyables, à la fois chez les capitaux risqueurs, mais les ingénieurs, les écoles qui forment les ingénieurs, les anciens de telle et telle entreprise. Donc on a une extraordinaire concentration de pouvoir à la fois technologique, numérique et financier qui est sans équivalent dans le reste du monde, et c'est ça qui fait le succès de la Silicon Valley.
Et c'est pour difficilement exportable. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre, Denis Lacorne, c'est-à-dire la Startup Nation est-elle soluble dans la République et dans le modèle républicain? On voit bien quand même qu'il y a aussi
Tensions,
une tradition politique et puis une approche de l'aménagement du territoire et peut-être aussi une forme d'égalitarisme. En tout cas, l'égalité est au cœur du projet républicain qui ne va pas...
Qui ne coïncide pas. Et finalement, si vous regardez beaucoup de la littérature qui est publiée sur le site de la French Tech, il est bourré de contradictions. C'est-à-dire, d'une part, on met en avant les métropoles, il en faut de plus en plus. Puis d'autre part, on vous dit, dans le même site, à certains moments, dans le fond, la French Tech, c'est Paris, c'est la locomotive, c'est Paris, c'est là que tout se concentre. Et puis, 6 mois après, on dit, oulala, erreur, on a oublié la province, il est temps de mettre le paquet sur la province. Donc, il y a toujours cette tension. Et c'est vrai que Xavier Niel n'a pas amélioré les choses, la station. Bref, c'est Paris, à nouveau. Même s'il y a de grands succès, par exemple avec OVH à Tourcoing ou Delair, qui sont les robots, les robots volants à Toulouse. Enfin, il y a Lyon, Toulouse. Enfin, il y a de grands succès en province, mais la French Tech, quand on y pense aujourd'hui, c'est surtout Paris. Et quand on essaye de mesurer le succès de Paris par rapport à d'autres villes, Paris n'est pas en tête. C'est Londres, c'est Berlin, en fonction de tas d'indices qui sont... le nombre de meetings consacrés à la technologie, les levées de fonds, les mega rounds, qui sont des levées énormes, 100 millions de dollars ou plus. Donc on a ce problème. Même si dans les quelques licornes françaises, il y en a 5, il y en a plusieurs qui sont des licornes provinciales.
Alors, cette Startup Nation, c'est évidemment d'abord un projet économique, mais c'est aussi une philosophie. Est-ce que cette philosophie s'est immiscée dans la façon de gérer les affaires publiques et est-ce que c'est par ailleurs souhaitable? Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Bien, vous avez posé la question à Benoît Thiolin.
Oui, qui est le fondateur de la NetSquad et aussi l'ancien patron du Conseil National du Numérique et l'un des meilleurs connaisseurs du monde des startups en France. Les techniques très particulières de cet univers appliquées aux affaires publiques, selon lui, est-ce une bonne idée ou non? On l'écoute.
Moi, j'aurais tendance à dire que là où indiscutablement l'esprit start-up a probablement beaucoup révolutionné la politique, c'est probablement dans la campagne et dans les élections. Dans le champ des campagnes, indiscutablement, la culture start-up a irrigué la politique et l'a profondément percuté, impacté. On pourrait même dire qu'elle l'a disrupté, pour faire plaisir au langage des start-up. Dans le champ public, je pense que c'est beaucoup plus incertain. C'est-à-dire que là, on se heurte en réalité à des organisations, à des modes de fonctionnement, à des effets de masse aussi, qui font que voilà, on peut pas gérer et on peut difficilement complètement appliquer une culture start-up en mode projet agile, avec des circuits courts de décision, des circuits courts de validation aussi des prototypes, des nouveautés, de l'innovation. C'est beaucoup plus difficile en réalité de l'importer dans les administrations. Quand vous regardez en France, par exemple, ce qu'a pu faire Etalab, vous avez un peu de cette culture start-up, vous avez un certain nombre de services qui ont été expérimentés sur un mode qui ressemble parfois à celui de les start-up. Est-ce que pour autant on est passé à l'échelle, qu'on peut dire aujourd'hui que l'administration française fonctionne en mode start-up ? Non, je crois que vraiment ce serait complètement mentir que de dire ça. Et par ailleurs, on peut aussi se poser la question de savoir, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ?
Est-ce que c'est souhaitable ? Car les deux logiques, celle du monde des start-up et celle de l'action publique, peuvent être complémentaires, mais dans l'immense majorité des cas, elles seraient plutôt en opposition.
Autant je pense que ce qui est possible, et peut-être ce qu'il faut retenir de cette culture start-up, c'est la culture au fond, à la fois de l'innovation et de l'expérimentation. C'est peut-être ça qu'il faut retenir le plus. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant dans l'esprit start-up, c'est celui, au fond, d'essayer un petit peu de repartir de zéro, de se décaler. Et au fond, même si on n'est pas du domaine, précisément en s'en arrachant, eh bien, vous allez être capable de pouvoir transformer un secteur en n'en étant pas. Si vous regardez Uber a commencé à transformer la mobilité sans fabriquer de taxi. Si vous regardez Airbnb, ils construisent pas d'hôtels, ils ont changé quand même la manière dont on va se loger en tant que touriste. En revanche, l'idée, on va dire, de vouloir absolument gérer un État qui a ses règles, marché public, qui a ses statuts, qui a ses lourdeurs, mais c'est des lourdeurs, bien sûr qu'elles sont des handicaps souvent pour le transformer, mais qu'elles sont aussi des garde-fous, des protections, qui font que l'État, non, n'est pas qu'une entreprise un peu plus grosse que les autres. L'État, garant de l'intérêt général, et même si aujourd'hui on a tendance à vouloir dire que les entreprises doivent porter, je vous partage beaucoup, une part de l'intérêt général, du bien commun. Pour autant, si on doit comparer entre les deux, il est évident que l'État, lui, c'est son rôle central. Donc, on ne peut pas transformer l'État en start-up.
C'était Benoît Thiolin, le fondateur de la NetSquad.
Qu'en pensez-vous, Denis Lacorne ?
Non, je pense que tout ce qu'il dit est très juste et je crois qu'il faut bien comprendre que le droit du travail en France n'est pas le droit du travail aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un des éléments du dynamisme, mais il y a aussi un coût social. Votre start-up n'a pas marché, vous renvoyez du jour au lendemain 600 personnes ou 900 personnes qui se retrouvent à la rue, mais qui auront peut-être la chance de rebondir parce que le même entrepreneur qui ferme va rouvrir une autre entreprise 3 semaines après. Donc il y a cette vélocité du changement et du renouveau qui est impressionnante, mais avec beaucoup de gens qui restent sur le côté et qui pourront passer, disons, d'un brillant technicien dans une start-up à un chauffeur Uber. En même temps, je voudrais revenir sur ce qu'il a décrit comme la culture start-up, ce qui est très intéressant, innovation et expérimentation. Moi, je vois 4 éléments clés dans la culture start-up qui peuvent être empruntés avec certaines limites. D'abord, effort d'imagination, de création, ça c'est très important et c'est très utile pour les jeunes. Deuxièmement, la prise de risque, il faut avoir conscience de ça. Et la prise de risque, ça veut dire aussi le risque de l'échec. Et beaucoup des gens que j'ai interrogés ont échoué 2-3 fois, puis ont rebondi, créé une 3e, 4e entreprise, deviennent des serial entrepreneurs. Ça, c'est très impressionnant. Et puis, il y a un principe de plaisir. C'est-à-dire que lorsque vous interrogez un start-upper français installé aux États-Unis ou américain aux États-Unis, à Silicon Valley, il y a cette idée que l'adrénaline, ça marche. On est un petit groupe, on est 5-6, on travaille 20 heures par jour. Il y a ça. Et puis, dernier principe, celui du pitch. Le pitch, c'est vendre sa marchandise de façon très habile, très courte, 4 minutes, devant un parterre d'investisseurs.
Voilà, j'espère que vous aurez toutes et tous retenu ces 4 principes. Si ce n'est pas le cas, il faut lire votre livre, Denis Lacorne, « Tous milliardaires, le rêve français de la Silicon Valley ». C'est publié aux éditions Fayard. On peut également assister à un colloque à Sciences Po. C'est lundi prochain. À quelle heure ?
17h30. À Sciences Po, aux séries, 56 rue Jacob, et qui sera consacré au livre, aux start-up en France.
Et je rappelle que c'est à Paris. Merci beaucoup, Denis Lacorne, d'avoir participé à cette émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Nathalie Salle, avec à la prise de son Audrey Guélil. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture.
à 12h45. La suite dans les idées de Sylvain Bourmeau et dans un instant, le journal de 12h30.